L'idée que nous avons donc commencé à développer, c'est que la notion Israël existe avant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pensée Israël était à la base même de la création. Bien entendu, il ne s'agit pas de temps, car avant la création, le temps n'existe pas. Donc on parle de quoi? On parle tout simplement de l'idée. Quand on dit qu'Israël a précédé le monde, que c'était la pensée divine, ça veut dire que l'idée de la création était avant le monde, donc c'était Israël. Autrement dit, toute cette création était pour Israël ou à travers Israël, elle devait passer par Israël. La raison que nous ignorons en fait, pourquoi, en tout état de cause, le Créateur a créé une forme vivante qui s'appelle Israël, qui elle seule est capable de véhiculer les valeurs du divin dans ce monde, dans la création. Donc on a dit qu'il n'y avait pas un jour un rassemblement pour choisir Israël parmi d'autres nations, ce n'est pas le cas. Il y a eu un choix de Dieu avant même de créer le monde, de se fabriquer, de se façonner une forme vivante qu'il a nommée Israël. Je ne parle pas encore de personne, hein. Je parle de Neshama, et que cette forme-là, il a introduit à l'intérieur d'elle toutes les capacités, les qualités nécessaires pour faire ce travail. C'était ça en fait, Asher Bachar Banu Mikol Amim. Donc, c'est pas qu'il nous a choisi parmi les nations, il nous a choisi, il a choisi de nous créer de cette manière. C'est ça le véritable choix. Ça veut dire que chacun de nous a un potentiel. Que nous sommes les porteurs de ce message. Maintenant, je descends déjà dans ce monde au niveau individuel, après la création. Il faut qu'il y ait des hommes, des femmes, qui portent cette forme de vie, qui s'appelle Israël. Donc nous sommes les fils de cette idée qui s'appelle Israël. Bnei Israël. Donc les enfants de ce grand Israël, de cette grande notion. Portent à l'intérieur d'eux cette grande notion et qui sont, même au niveau individuel, censés la véhiculer. Donc chacun de nous doit être toujours fidèle à cette grande notion qui s'appelle Israël, qui a précédé le monde. Si vous êtes fidèle à cette notion, vous êtes des tzadikim ou des tzadikos. Si vous êtes infidèle ou éloigné de cette notion, par exemple, vous vivez votre judaïsme au niveau individuel sans savoir que vous venez de cette nation et que vous êtes en fait le porte-parole de Dieu à travers cette nation, eh bien, c'est comme si vous mentez à votre structure intérieure. C'est ce qu'on appelle en hébreu la faute. Fauter, c'est être à côté de ce que nous devons faire. En hébreu, le harti, c'est rater sa cible. Donc, je répète, cette notion a précédé le monde et cette notion apparaît en chacun de nous lorsque nous naissons d'une maman juive, tout simplement. Ça passe dans les gènes, ça passe par naissance. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous acquérons parce que nous voulons, on ne peut rien faire avec cette chose-là. C'est un cadeau qui vient de Dieu sans aucune action de notre part. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Ségoula. Donc la Ségoula est un cadeau divin qui n'a aucun rapport avec nos actions. On l'a. Un point, c'est tout. Où est notre choix alors? Notre choix, c'est de la développer ou de la laisser telle quelle. c'est-à-dire ou d'ouvrir le cadeau, ou de le laisser dans sa boîte. C'est le seul choix que nous ayons. Ceux qui ouvrent ce cadeau commencent à activer la ségoula, et ceux qui décident de laisser ce cadeau fermé laissent la ségoula inactive. Mais on ne peut en aucun cas nous débarrasser, se débarrasser de ces ségoula. D'accord ? Elle fait partie intégrante de notre vie. Donc on ne peut pas se sauver de son identité. On peut au maximum l'étouffer, ne pas la dévoiler, ne pas jouer notre rôle dans ce monde. Les choses sont claires. Nous sommes dans la troisième partie. Bemesech hazman gavra ha'agdara al pi ha'territoria ve'ha'mishpachot hafru le'goyim. L'histoire s'est développée et le territoire a fait en sorte que les familles de la terre, au départ il y avait des familles, sont devenues des peuples. Moussag ha-magdil et mis-e-no sayach le-le-om ke-zar. Et donc tu deviens étranger si tu ne fais pas partie donc d'un territoire et d'un groupe d'hommes. Ayachas haya matsui ben ha-mishpachot haya ha-shalom. Donc quel était en fait le lien entre toutes ces familles qui commençaient à avoir des territoires et qui commençaient à former des nations? C'était la paix. C'est-à-dire que la paix, c'est celle qui peut faire en sorte que tout le monde vive tranquillement. Le seul problème, c'est que la paix était entre les familles. Et quand ces familles sont devenues des nations, et que les nations se sont pris des territoires, eh bien, il a commencé à apparaître, en fait, les guerres. Donc, les guerres n'existaient pas entre les familles. Les guerres ont commencé lorsque les familles sont devenues des nations. D'accord ? D'ailleurs, entre parenthèses, les fidèles à Neboua, à Omer, nous avons une prophétie d'après laquelle les rapides lavaux, à la fin des temps, lo yissa goy el goy chere, les guerres vont cesser, velo yimedu od milchama, et ils n'apprendront plus la guerre. Mais ça, c'est une nouveauté, c'est un chidouche. Parce que c'est pas ce que le monde nous offre aujourd'hui.
Et malheureusement, si on veut un territoire, mais nous
sommes... Exactement. Il y a toujours des guerres pour un territoire, pour une façon d'être, pour une religion, et ainsi de suite. Donc, ce que le prophète nous prophétise ici, c'est en fait une nouveauté. C'est quelque chose qui n'est pas normal, en tout cas, dans la normalité que nous connaissons aujourd'hui. D'accord ? Donc, il va se passer apparemment quelque chose dans le monde, qui va faire en sorte que les guerres cessent. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, en tout cas, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit par la bouche du prophète. Slicha? Isaïa. Al-Rekazé, sur ce fond-là, sur cette base-là, au fil Abraham Avinu, est apparu Abraham. Notre père, c'est-à-dire celui qui est à la source de notre nation. Pas que lui a engendré la nation. On a dit tout à l'heure que la nation existait avant le monde, donc bien avant Abraham. Seulement, le Créateur a choisi de commencer à faire passer cette Neshama à travers un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Donc Abraham avait en lui, en fait, tout le potentiel du peuple d'Israël qui allait sortir. Donc, c'était un homme qui portait en lui un peuple. On peut dire que c'était un homme-nation. Ok ? Sur quel fond Abraham apparaît dans le monde ? Kenu se tafkido le'akim et am Israël, shenikra befiasem goy gadol. Ve'e'esra le goy gadol. Et il reçoit en fait en prophétie, dans ce fameux Lech Lecha qu'il entend, Ve'e'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Donc Abraham, à ce moment-là, comprend qu'Akadosh Baruch Hu a un projet pour lui, c'est qu'il devienne une grande nation. Moralité, Abraham comprend au même moment que cette graine de la nation se trouve où? Déjà en lui. Dieu a introduit en lui cette notion de Goy Gadol. Et c'est pour ça qu'il dit « Je ferai de toi une grande nation ». Tafkidoshel Goyze, et quel sera le rôle de ce Goy Gadol? Shoneh betachlit mi tafkidam shel shaar ha-goyim. C'est quelque chose qui est différent de tout ce qui existe jusqu'à ce moment-là. Parce que si Akadosh Baruch Hu avait l'intention d'apporter encore une nation dans le monde, ça ne changerait rien du tout. Il y a quelque chose qui change maintenant. Il y a quelque chose de nouveau dans cette nouvelle nation qui n'est pas encore apparue, que Abraham porte en lui. Quelle est la nouveauté que comporte cette 71e nation? Car dans ce monde, au moment où Abraham reçoit ce message, il y a déjà 70 nations. Donc Dieu lui demande d'être le porteur de la 71e nation. Alors, ne vous trompez pas, ce n'est pas encore une nation pour qu'il y en ait 71. Ce n'est pas ça du tout. C'est une nation qui ne rentre pas en réalité dans le compte. C'est une qui fera face à 70. Et quel est le rôle de cette une? Pas encore une, mais une qui va faire le lien entre toutes les 70 nations. Avec des mots simples, ça veut dire que l'apparition qu'Akadosh Baruch Hu attend, que Abraham dévoile parce qu'il le porte déjà en lui, c'est une forme vivante qui va s'appeler donc Goy Gadol et Israël. Après, on va savoir que c'est Israël. Mais pour l'instant, Dieu nomme cette forme Goy Gadol. Eh bien, son rôle, c'est d'être comme une colle qui va en fait faire le lien entre toutes les nations du monde. Car les nations du monde, comme je viens de dire juste avant, elles sont dans des états de guerre pour des territoires, pour des façons de voir la vie, pour des religions. Et la seule nation, la seule forme de vie qui va pouvoir les mettre toutes d'accord, c'est Israël. Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous un potentiel extraordinaire de mettre les nations du monde d'accord. Aujourd'hui, on voit bien que ça marche. Elles sont toutes d'accord pour être contre nous. Mais elles sont d'accord. Ça veut dire qu'on a déjà rempli notre rôle. Le seul problème, c'est que c'est dans le sens négatif. Elles sont toutes d'accord d'être contre. D'accord. Un jour arrivera où elles continueront d'être toutes d'accord, mais pour. Pour l'instant, elles sont contre. Ça veut dire que nous jouons réellement notre rôle. On fait l'unanimité. Donc on est la colle. Okay. Je ne veux pas dire que l'un a raison ou que l'autre a raison. Je veux dire tout simplement que Gog et Magog, si tu prends la valeur numérique, c'est 70. Ça veut dire que ce sera une guerre de toutes les 70 nations. Alors, quelle sera la nature de cette guerre? J'en sais rien. À mon avis, ce sera géopolitique mélangé avec une notion de prise de conscience, d'équité, de moussard, de morale, toute forme de guerre. Pas forcément une guerre militaire. C'est aussi une guerre mentale qui sera en fait autour de Yerushalayim, avec des mots un petit peu plus clairs. Ce sera une guerre qui va désigner celui qui portera le drapeau du futur monde. C'est comme si les nations du monde étaient autour d'une table et qu'elles étaient en train de se disputer pour savoir quelle couleur aura le monde demain. Non, non. C'est les nations, c'est une très bonne question. Il y a en fait des peuples, mais les peuples, c'est un ensemble d'individus. Alors que chez nous, le peuple existe avant les individus. Comme le dessin du soleil que j'ai dessiné dimanche soir. Ça veut dire que chez nous, c'est l'inverse. Le klal précède les pratim. Alors que chez les nations du monde, c'est les pratim qui font le klal. Est-ce que c'est clair? Donc, Tafkido sel goïze, sonne betachlit mi tafkidam sel shara goïm, veu betrinat, ve nivrechou becha kol vispechot ha'adama. Donc, tout ce que je viens de vous dire, qu'Israël va jouer le rôle de kol, d'adhésif, pour les nations, eh bien, c'est dit dans la parole que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham. Ve nivrechou becha, qu'est-ce que ça veut dire ve nivrechou becha? Ça peut venir de bénir, mais si c'était effectivement la racine de bénir, ce serait Vehit Barhu Becha, en hébreu. Donc c'est une faute grammaticale. Donc, non, l'ivoire, c'est avec un chet. Là, c'est avec un chaf. Non, Venifrehu, c'est avec un chet aussi. Non, en hébreu, c'est un autre verbe, le havrich. Mais avec un chaf, qui veut dire relié. D'accord? Comme le genou. Comment vous dites un genou? Berech. Qu'est-ce que fait le genou? Quel est son rôle? De relier la partie haute, la cuisse, avec les mollets, le tibia. Donc, le mot genou, berech, c'est en réalité un médiateur. Un élément adhésif reliant le haut et le bas. Donc, Venivrechou seront donc rattachés, Becha par toi, en toi, Kol Vispechota Adama, toutes les familles de la terre. Première remarque, on ne parle plus de peuple, on parle de famille, comme si le monde allait changer de nature bientôt. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les peuples vont arrêter d'être peuples et vont de redevenir ce qu'elles étaient au départ, c'est-à-dire des familles. Et c'est en tant que famille qu'Israël aura la possibilité de les réunir. Donc toutes les nations seront réunifiées, unies, par l'intermédiaire d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël va jouer un rôle médiateur entre toutes les nations du monde. Comme si Israël était un élément qui reliait le tout. Si vous voulez un exemple, c'est comme le corps et la neshama. Est-ce que les membres du corps sont liés entre eux? Oui ou non? Non. La preuve, c'est que quelqu'un de mort, tous ses membres se décomposent et se dispersent. Donc, qui fait le lien entre tous les membres du corps? La Neshama. C'est parce que vous avez une Neshama que vous êtes entière. Chas de Shalom, quelqu'un de mort, quand sa Neshama est sortie, qu'est-ce qu'il devient? Il n'est plus entier, il commence à se décomposer. Pourquoi? Ça prouve que seul celui qui était en lui comme forme de vie, c'est-à-dire la Neshama, c'est lui qui faisait le lien entre tous ses membres. Vous êtes avec moi? Oui ou non? Non? Le cœur n'a jamais rien fait tout seul. Si je pose un cœur sur la table, ça ne fait rien du tout. D'accord ? Même le cœur est un morceau de chair, de sang, qui est activé par quelque chose de beaucoup plus profond, qui précède à tout, c'est-à-dire l'âme. Je vais vous donner même une preuve sans pour autant mourir. Quelqu'un qui dort. Quand il dort, tu peux t'ouvrir les yeux, tu ne me vois pas. C'est bizarre, c'est un même yeux. Il y a 10 minutes, tu me voyais, maintenant tu ne me vois plus. Je te parle à l'oreille, tu ne m'entends plus. Je te touche, tu ne me sens plus. C'est bizarre tout ça, non? Ton cœur ne bat même plus à la même vitesse. Il était au minimum vital. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'essence est en train de partir. Pendant ton sommeil, la Neshama est montée. Elle est sortie en quelque sorte du corps. Elle a laissé juste une petite mémoire d'elle-même pour ne pas que la personne meure. Mais l'essentiel de la Neshama n'est plus dans le corps. Donc que fait le corps? Il est inanimé, il est presque mort. Tu le bouges, il ne bouge pas. Tu lui parles, il n'entend pas. Tu laisses sa main, elle retombe. Comme si c'était un mort. C'est incroyable. Ça veut dire que là aussi il y a une preuve, aujourd'hui la médecine s'occupe de cela, même au niveau de la science, il se passe quelque chose de phénoménal pendant le sommeil. Qui fait en sorte que nous savons qu'il y a un élément qui n'est plus, qui est sorti. Et pendant que cet élément est sorti, que nous appelons donc la Neshama, eh bien, le monde change complètement de structure. Ici, le corps humain. Maintenant, je fais le même rapport entre Israël et les nations. Les nations, c'est comme le corps. Et Israël, c'est la Neshama qui fait le lien entre tous ses membres. Donc si Israël ne joue pas son rôle, donc si la Neshama n'est pas dans ce monde, qu'arrive-t-il au monde? Il meurt, il se disperse, il se disloque, il disparaît, il devient poussière. Donc qui fait vivre le monde? Israël. Comment est-ce qu'elle fait vivre la Neshama? Comment est-ce qu'elle fait vivre le corps? Parce qu'elle-même est reliée à quoi? À Hachem. Donc Israël, en réalité, il est relié par essence à Hachem, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il arrive à être cet élément de vie à l'intérieur du corps des nations. Vous êtes avec moi? Oui. Exactement. Les gens qui ont un sommeil beaucoup plus léger que les autres, c'est qu'ils ne permettent pas, pour une raison X ou Y, que je ne dis pas maintenant, ne permettent pas à leur Neshama de sortir complètement. Parce qu'ils ont un problème de lâcher prise. Ils ne veulent pas réellement dormir, parce qu'ils ont peur de quelque chose. Parce qu'en dormant, tu lâches. Imagine-toi, par exemple, que tu es à côté d'un conducteur en voiture qui ne conduit pas bien. Tu as peur d'être avec lui. Tu te laisses endormir? Non. Pourquoi? Tu as peur de t'endormir à côté de lui, donc tu es toujours éveillé. Parce que tu te dis, s'il fait quelque chose, je vais lui dire. En plus de ça, tu as la main qui attrape quelque chose dans la voiture, comme si ça te rassurait. Tu as peur de lâcher prise. Mais quand tu as confiance en quelqu'un, tu peux dormir à côté de lui. D'accord? Ça, c'est un des secrets. Quand on a confiance en quelqu'un, on peut s'endormir à côté. Quand on n'a pas confiance en quelqu'un, on reste en éveil. Donc, ceux qui ont le sommeil léger, c'est qu'ils ont un problème, entre guillemets problème, de lâcher prise. Ils veulent dominer tout. Donc ils ont un sommeil léger pour se réveiller à chaque instant nécessaire. Ça veut dire qu'en réalité, ça c'est autre chose. Ça c'est un choix. Je ne parle pas du sommeil léger. Ça c'est un choix, une capacité. Ça veut dire que s'ils arrivent à faire ce que le sommeil m'offre, sans pour autant dormir, là je suis déjà à un autre niveau d'homme. J'explique. Pourquoi nous dormons? Pourquoi vous allez dormir? Pour faire reposer le corps? Oui ou non? Non. Pour régénérer l'âme. Le corps ne se fatigue pas. Ça n'a aucun rapport avec le corps. Les gens se trompent. C'est la Neshama en réalité qu'il faut régénérer. Le soir, quand vous dormez, vous branchez votre appareil, d'accord, pour qu'il se charge. Est-ce que c'est le corps qui se charge ou la Neshama du portable? La Neshama, donc c'est sa carte inférieure. Mais c'est la même chose. Le sommeil, ce n'est que pour la Neshama. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle subit, la Neshama, dans son sommeil? Toujours, 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 ramener les questions en hébreu, à la racine en hébreu. Comment on dit? Rêver. L'achalom. Qu'est-ce que ça veut dire l'achalom? Ça vous rappelle quelque chose? Comment on dit guérir? Léachlim. Ça veut dire que le chalom est une guérison. On va rêver pour guérir. Et on va dormir pour rêver. Justement, parce que la Neshama est sortie. Quand la Neshama est sortie, tu n'as plus cette légèreté, tu ne peux plus être toi en structure. Tu es en train de bouger maintenant ta main pour te gratter. Qui fait ça? Ta Neshama. Tu sais qu'un élément de ton corps a besoin d'une petite gratouillette. Donc il te dit inconsciemment, lève le stylo et c'est comme ça. Mais ça n'a jamais été mon doigt. Le doigt ne fait rien. Je vais vous faire un petit peu peur. Maintenant, celui qui vous parle, c'est une Neshama. Vous pouvez sortir du cours en disant, ce matin, une Neshama nous a parlé. J'ai entendu une Neshama me parler. Oh! Alors, ça fait peur aux gens, hein? J'entends parler des âmes. Mais en fait, tout ce qu'on fait toute la journée, c'est que des âmes qui parlent. Elles utilisent des éléments, des ustensiles, des kélims, la bouche. Mais ça n'a jamais été mes yeux qui te regardent, c'est ma Neshama qui te regarde, à travers les yeux. Ça n'a jamais été moi qui t'entends, ni mon oreille, c'est ma Neshama, mon moi intérieur qui t'entend. Elle a besoin de ces ustensiles dans ce monde, quand on est habillé dans un corps, pour voir, pour entendre, et pour tout le reste. Je reviens, donc, dormir, c'est pour rêver. Et rêver, c'est pour guérir. Les achlim, la med he, chet, la med, yud men. Racine, trois mots. Chet, la med, men. Alors, l'âme a besoin d'être rechargée. Donc, ça s'appelle une guérison pour elle. Parce qu'en fait, elle s'est fatiguée dans le corps. Toute la journée, ta Neshama est dans le corps, mais tu n'écoutes pas assez. Donc elle s'efforce sans arrêt à t'amener là où tu veux. Parce que c'est elle qui te conduit. Ton corps n'est qu'une voiture. C'est comme ma voiture qui est derrière en bas, c'est pareil. C'est moi qui conduis ma voiture. Donc ça m'est ma Neshama qui me conduit. Mais c'est fatigant aussi de conduire. Au bout de quelques heures de conduire, c'est fatigant. Il y a fait. Plus tu fais ton rôle et tu ne fatigues pas ta Neshama pendant ton éveil, moins tu as besoin de dormir. C'est pour ça. Pas une semaine, trois jours. Trois jours. Quelqu'un qui ne rêve pas pendant trois jours, et d'ailleurs c'est une expérience qui a été faite. Médicalement, on a pris un groupe de personnes et on les a amenées dans un hôpital de sommeil. On leur a branché des cosses électriques, électromagnétiques, et chacune de ces personnes était reliée à un ordinateur central. Et on mesurait en fait leur sommeil. Dès que ces personnes commençaient à rêver, il y avait des vibrations. Qu'est-ce qu'on faisait immédiatement? On réveillait la personne. Dès qu'elle commençait à rêver. Donc on l'empêchait de rêver. Donc on l'empêchait de guérir. Le lendemain matin, du premier jour, une expérience médicale, vous pouvez le voir même sur Internet. Ces personnes marchaient comme des zombies. Crevées.
Alors qu'elles avaient dormi.
Deux heures. Mais pas rêver, parce qu'on les a empêchées. On les a empêchées de dormir pendant la journée. Le lendemain soir, on a refait l'expérience. Elles étaient en train de dormir, avec tous les appareils branchés. Chaque fois qu'une personne rêvait, on la réveillait. Le lendemain matin, par une visite médicale, on disait que ces personnes étaient proches de la mort. S'il y avait encore une journée, elles seraient mortes. Donc immédiatement, on a fait dormir ces personnes et les laisser rêver. Quelle? Alors, d'accord. Le rêve est une guérison parce que le rêve est une prophétie. C'est-à-dire que pendant le rêve, nous nous relions en fait à l'infini. C'est de là-bas que nous recevons notre régénérescence. Comme une pile comme un portable qui est relié à l'électricité, nous, l'électricité, c'est la lumière divine. Quand tu dors, tu te relies à ce degré-là. Donc, les sages nous disent que le rêve est un petit peu de la prophétie. Peu importe le rêve. Maintenant, bien entendu, ceux qui rêvent de certaines choses, on peut savoir de quel degré ces personnes sont, et ceux qui rêvent d'autres choses, on peut savoir aussi quelle catégorie d'hommes ou de femmes on a en face de nous. C'est-à-dire, selon tes rêves, raconte-moi tes rêves, je te dirai qui tu es. Ça, c'est pour autre chose, c'est pour que le rêve se réalise d'une manière bonne. Mais le fait que tu rêves de certaines choses, ça montre en réalité qui tu es. Ça, c'est encore autre chose. Il y a des secrets de savoir traduire les rêves. C'est par exemple si on rêve de mort, ou de quelqu'un qui est vivant, qui meurt, c'est autre chose. Si tu rêves déjà des morts qui sont déjà morts dans la réalité, ou des gens qui sont vivants que tu rêves morts, et ainsi de suite. Il y a plein de détails. Mais là, je reviens à l'essentiel, avant de vous laisser poser les questions. Ce rêve, donc, trois lettres. Chet, Lamed, Mem. D'accord ? Chalom. Ok. Que veut dire le mot en hébreu Chalom, à part rêver et à part guérir ? Je vous ai déjà donné deux traductions, d'accord ? Guérison et rêve. Mais ça veut dire autre chose encore. Les halchim. Qu'est-ce que c'est les halchim en hébreu ? C'est difficile, hein ? Soudé. Soudé. Donc le chalom, c'est soudé.
Les halchim,
la même chose. Lamed, hé. Lamed, chet, yud, mem. Toujours la même racine. Lamed. He. Lamed. Chet yud men. Le hal sim. Ok? Hal chama. Tout à l'heure, je vous ai dit ha chlama. C'est-à-dire guérison. Mais pourquoi tu guéris? Pourquoi tu es en bonne santé? Parce que tu es soudé. À qui? À ta source.
Des fois, ça arrive qu'on dort profondément, mais
qu'on ne reste
pas.
Non. Toi, tu crois que tu ne restes pas. Mais si je te branchais des. Que on a branché à des personnes. Peut-être que tu ne te rappelles pas. Voilà. Tu ne te rappelles pas. Ça aussi, c'est un degré.
Je ne vois pas m'endormir.
Exactement. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu crois. Mais en réalité, il y a ici aussi une possibilité de savoir de quoi tu es fait, si tu te rappelles de tes rêves ou pas. Là aussi, on peut voir le niveau de ta conscience, de ton être. Ça dépend de toi aussi, ça dépend des temps, ça dépend de plein de choses. D'accord ? C'est, il faut savoir, ça c'est une étude. C'est pour ça que je suis en train de vous parler de ça. Je suis pas en train de vous avoir fait un cours, là. Mais quand est-ce que c'est très important de savoir ça. Qui était spécialiste de ça ? Yosef. Yosef. C'était sa spécialité. Pourquoi il savait quoi faire? Soudé. Le rêve à la réalité. Donc ça s'appelle Chalom. C'est le spécialiste de la soudure. D'accord? D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait que la Neshama reste dans votre corps, qu'elle ne s'en aille pas? Non. Non, ils ne sont pas soudés. Ils sont soudés parce que vous faites quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si vous ne mangez pas? Non, vous ne tombez pas dans les pommes. Votre Neshama sort. C'est fini. Vous mourrez. Tu ne peux pas vivre sans manger, non? Sans manger, tu ne peux pas vivre. Même si tu peux vivre 50 jours, à la fin de 50 jours, tu mourras. Mais c'est faux ça aussi. C'est faux ça aussi. Qu'est-ce que tu dis que tu peux pas? Impossible. Tu peux 50 jours, 60 jours, après c'est fini. Mais ça veut dire que la Neshama doit être soudée au corps. Comment on dit soudée? Les halchim. Donc quel est l'élément que vous mangez qui vous soude? L'air. c'est la même racine. C'est pour ça que vous faites une bénédiction qui englobe tout, seulement en faisant un moti lechem. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire donc un moti lechem nare? Celui qui me fait souder à la terre. Donc notre soudure, c'est le lechem. Seulement le lechem demande aussi un effort. D'accord? Il faut se battre pour gagner sa vie. Comment on dit se battre? Lochem, c'est la même racine. C'est-à-dire qu'il devient un combattant, lochem, pour manger du lechem. Incroyable. Donc il faut adoucir un petit peu ce lechem. Donc à chaque fois que tu veux adoucir le lechem, pour ne pas que tu manges en fait la notion de guerre, tu dois le tremper dans melach. C'est les mêmes racines. C'est les mêmes lettres. Le sel? Melach. Quand vous mangez, manger du pain, ça demande un combat, un travail dur. L'ilchom, l'ochem, l'ilchama, gagner sa vie, une guerre, un combat. C'est la même chose, c'est les mêmes racines, les mêmes trois lettres. Je suis en train de jouer avec trois lettres. Je ne suis pas encore sorti de trois lettres. L'ilchama, l'ochem, l'ochem. L'ochem. L'ochem veut dire un combattant. La mettre, c'est même. Comme l'air aime le pain. Tu peux mettre le vin, vous l'enlevez, tu peux mettre un cholam, c'est la même chose. Hein? Shalom. Donc, pour adoucir cette notion de guerre, nous dit le chachamim, à chaque fois que tu manges du pain, tu dois le tremper dans le sel. Donc, tu dois prendre le lechem et tu le tapotes avec du melach. Que c'est le melach? Il adoucit. Vous savez ça ou pas? Par exemple, quand vous mangez de la viande cachère, il faut faire sortir le sang qui est à l'intérieur. Comment est-ce que je puise le sang de l'intérieur? Avec le sel. Donc le sel a une qualité qui fait sortir la difficulté d'une chose. D'accord? D'ailleurs, quand vous voulez ressortir un goût de douceur, qu'est-ce que vous devez mettre dans les repas? C'est paradoxal. Du sel. Celles qui cuisinent savent ça. Si je veux faire ressortir le doux, je dois mettre du sel. C'est incroyable. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, pour l'instant, j'ai melach, j'ai lechem, j'ai lochem, j'ai chalom, et j'ai encore. Ah, il y a encore d'autres? Quand je veux en réalité, tu m'as énervé. Et je veux adoucir nos relations. Je te demande. Merci, là, c'est la même racine. Mochel. Donc, machal, même, chet, la mettre. C'est quoi? Pardonner. C'est la même chose. Donc, adoucir. Machal. Merci, là. D'accord? Comment on appelle le point qui est au-dessus d'une lettre? En hébreu, dans les ponctuations, j'ai un vav et j'ai un point au-dessus. Le cholam, c'est les mêmes lettres. Donc, qu'est-ce que c'est que ce point au-dessus de la lettre? C'est en réalité la neshama de la lettre qui est en train de sortir. Donc, comme la neshama de la lettre. Donc, elle est en plein rêve. Donc, le vav, il est dans un cholam, il est en train de rêver. Donc il est en train de guérir. Le point d'en haut de la lettre s'appelle un cholam. Vous avez compris comment l'hébreu se... des variants? C'est-à-dire qu'il y a des variations ici avec trois lettres. Je ne vous ai rien fait pour l'instant, on n'a même pas commencé à parler. Vous comprenez maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... je reviens à notre premier degré. Et on est arrivé à cela parce que Israël était la Neshama du monde. Et si cette Neshama ne se régénère pas, le monde ne peut pas vivre. Alors Israël a besoin tout le temps d'être branché à une prise. Quelle est cette prise? Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Cette prise est d'abord et avant tout une prise de conscience. Et elle est aussi une prise de terre, avant d'être une prise de tête. Parce que c'est difficile d'être Israël. Il y en a qui sont encore occupés à... Ça veut dire que c'est difficile de jouer ce rôle. D'être en même temps branché et en même temps d'être celui qui véhicule ses valeurs d'en haut. Quand la Neshama revient, entre guillemets, dans ce corps que nous sommes le matin, tu te lèves, fraîche. Tu as du mal à te lever. On a du mal à se lever, on se lève, on a les yeux complètement comme dans un autre monde, c'est dans les vagues. Tiens, pourquoi ? Tu te lèves. D'ailleurs, je vous apprends un petit secret. Quand vous aurez des enfants, ça va passer, il se peut que vos enfants se lèvent la nuit. Et même quand ils ont 2-3 ans et qu'ils commencent à marcher tout seuls dans le noir, qu'est-ce que vous devez faire ? Les appeler par leur prénom. Les prendre dans les bras et les appeler par leur prénom. Pourquoi ? Parce que le prénom, c'est le prénom de qui ? De la Neshama. Donc, quand tu l'appelles par son prénom, sa Neshama revient dans le corps et il se réveille doucement. Oui, un enfant qui est somnambule ou perturbé, machin. Okay. Même si quelqu'un tombe dans les pommes, tu es en train de maintenant trouve mal, je dois te prendre et t'appeler par ton prénom plusieurs fois. Tu appelles ta Neshama, elle revient dans ton corps. Mais c'est très important, ça. Ça veut dire que notre nom, nos noms, les noms qu'on vous a donnés, c'est le nom de votre Neshama, pas de votre corps. Votre corps n'a pas de nom. Exactement. Et en plus de ça, il y a marqué que celui qui donne des surnoms à ses amis n'a pas de part dans le monde qui vient. Okay. Oui. Alors, s'il s'appelait à la personne et que c'est un surnom gentil d'amour, d'affection, oui. Mais si c'est quelque chose qui se moque, par exemple le gros, moi j'ai un copain, tout le monde l'appelait le gros. Et d'ailleurs, il est devenu gros. Il a vécu selon ce qu'on a mis sur lui. Ok ? Faire très très attention à ça. Ça, on n'a pas le droit de faire. C'est des surnoms négatifs. Mais quand c'est un surnom de chavivout, d'amour, d'affection, quel t'as le droit ? Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Elisabeth, qui l'appelle Babette, ça va. Si ça lui plaît. Quelle est ? Vous comprenez quel est le rôle d'Israël maintenant ? Le rôle d'Israël dans le monde, c'est le rôle de la Neshama dans le corps. Donc, quel est le rôle de la Neshama dans le corps ? Juste, je vous pose une question. On l'a dit tout à l'heure, mais je veux savoir si vous vous rappelez. Quel est le rôle de l'âme dans le corps ? D'abord, de faire le lien entre tous les degrés. Quand tu t'es levé ce matin, tu as laissé quelque chose là-bas ? Une oreille, un petit doigt de pied ? Non, tout le monde est venu, d'accord ? Pourquoi ? Et après, ta Neshama est venue dans ton corps. Donc, quelle est la première bénédiction et remerciement à Kadosh Baruch Hu ? De m'avoir fait revenir ma Neshama, et pas celle de quelqu'un d'autre. Eh oui. Ah ! Alors, écoutez bien ce que vous dites. Elohai Neshama, Senatata Bi, Tehora. Qu'est-ce ? Modéani, d'abord, Lefanecha, ou Modéani, peu importe, Melechai Vekayam, je te remercie, roi vivant, Shechezar Tabi, Nismati, Anisamad, que tu m'as ramené mon âme à moi. Pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe la nuit. Quand vous allez dormir, c'est comme quand vous allez à l'aéroport pour déposer votre valise. Quand vous déposez votre valise, vous la voyez pendant 5 secondes à côté de l'hôtesse. Elle vous dit, vous pouvez poser votre valise sur le tapis roulant. Tu poses ta valise, elle l'appelle, elle te met un petit ruban, elle appuie sur un bouton, et la valise à 120. Vous savez ce qu'il y a derrière? Si vous saviez, tu prends ta valise et tu colles à elle comme ça, tu te dis non, je la veux, ne me quittez pas. C'est des tapis qui vont dans tous les sens, tout électronique. Et selon le code qu'elle a mis, elle sait exactement trouver sa place dans quel avion, dans quel truc. C'est de la folie. Mais c'est un monde, un monde. C'est-à-dire, vous voyez des dizaines de milliers de valises partir dans tous les sens. Et elles arrivent à l'endroit du pile de l'avion, à l'endroit du truc. Tout ça, c'est électronique, hein. C'est pas qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de regarder. Ça n'existe plus, c'est fini, tout ça. Ça, c'est quand tu pars. Quand tu reviens, la même chose. En vidant les valises de l'avion, elle rentre dans un tapis qui est bien précis du vol en question. Donc tu arrives à l'aéroport d'arrivée, tu as les avions de toutes les heures avec leur tapis correspondant. Là aussi derrière, c'est un labyrinthe de partout. Alors quand tu reçois ta valise, tu te dis « Modéani le panerca, misvadaï karateli ». C'est exactement la même chose. Vous comprenez qu'en réalité, c'est quelque chose de très important. Ça, j'ai même pas compté quand il y a des... Non. Des correspondants. Parce que ta valise, elle ne doit pas sortir, elle continue dans notre avion. Et là, elle retrouve d'autres copines valises. Je dis, tiens, de quel vol tu viens, toi? C'est des milliers de valises. Comprenez bien. Et quand tu as deux correspondances ou trois, que parce que tu as 25 heures d'avion, ça y est. Comment ta valise arrive? Eh bien, ça c'est qu'au niveau de la Nishama, c'est exactement pareil. Le soir, quand on va dormir, il y a des milliards de Nishamot qui montent.
Vous voulez pas qu'on dorme,
c'est ça? Des milliards. Comme un verre avec des bulles de gaz, des milliards de Nishamot qui montent. Maintenant, Satine, elle a un tampon. On sait exactement, avec un code électronique, qu'Akadosh Baruch Hu seul sait. Seulement, quand elles sont montées la nuit, toi t'es resté en bas dans ton lit, après tout ce qu'elle a vécu la nuit pendant ton sommeil, tous les rêves, les machins, qu'elle a rencontré plein de Nishamot, tous les gens que tu vois d'ailleurs, c'est des Nishamot que tu es en train de rencontrer dans ton tapis roulant. Pour que cette même Nishama revienne dans ce vrai corps qui lui appartient, je ne vous dis pas le travail. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire une chose pareille.
C'est pareil aussi.
Alors détrompe-toi. Ça peut arriver. C'est pour ça. C'est pour exactement. Pas seulement pour les Nishamot Goy. Pourquoi tous les matins, tu fais une bénédiction? Vous avez fait vos bénédictions ce matin? L'une d'entre elles, merci Akadosh Baruch Hu de ne pas m'avoir fait Goy. Ça va, ça suffit. Une fois dans ta vie, non? T'as compris que t'es pas Goy. D'accord? Pourquoi tous les jours? Parce qu'il se peut que une Nechama de Goy rentre en toi par erreur à Bessalon. Alors ça fait des... C'est-à-dire que tu n'es plus toi-même, tu marches à côté de tes pompes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es une personne qui ne se trouve pas. Tu te dis, mais attends, c'est pas moi, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, quand tu te mets en colère, je sais pas moi, quelqu'un t'a poussé les cheveux, bah, tu lui mets un coup, tu commences à gueuler, tu commences à être pas bien. Alors que d'habitude, c'est pas le cas. C'est pas toi. C'est Ras de Shalom, on dit, Nichnessa Boruach Tout. C'est-à-dire, un autre souffle est rentré en lui à ce moment-là. C'est-à-dire, d'autres formes de vie. Vous savez combien de formes de vie autour de nous qu'on ne voit pas? Vous croyez que les gens qui sont assis dans cette classe, c'est seulement ce qu'on voit? Je ne veux pas vous faire peur. Mais voilà. Il y a plein de Nishamot, des millions de Nishamot. Et toutes les Nishamot qui n'ont pas écouté un cours qui parle de ce sujet, quand elles sont déjà montées, on leur dit j'ai un cours aujourd'hui à 9h au Machon Aura. Toutes les Nishamot qui n'ont pas écouté un cours correspondant à la Emouna et à l'identité d'Israël, prière de descendre. Donc toutes les Nishamot viennent dans cette classe. Alors, ce qui arrive à voir, il y a des personnes qui arrivent à voir et des personnes qui ne voient pas. Mais ceux qui arrivent à voir ne le diront jamais. Pourquoi? Non, tout simplement parce qu'elle risque de perdre cette qualité de clairvoyance. Donc, à chaque fois que vous êtes en face de quelqu'un qui voit, il ne vous le dira pas.
Vous êtes en train de
me Et ça, c'est une réalité de vie qu'on n'arrive plus à croire aujourd'hui, qu'on ne comprend pas aujourd'hui, mais que les gens disaient avant, d'une manière claire.
Est-ce que quand je vais être très bien, je vais avoir la même chamade de l'air, la même chamade de l'air.
Dans la même journée, en même temps, quatre Nechamot. Non, on peut. Ça veut dire si des Nechamot, par exemple, qui viennent compléter un certain travail, viennent m'aider. Par exemple, là, je suis en train de donner un cours. Il y a un Rav, ou un enseignant, ou quelqu'un qui devait enseigner, qui est mort sans avoir fait ça. Quand il est là-bas, Dieu lui dit, Yoel, en bas, à sa fille, est en train de donner un cours, descend, rentre en lui et aide-le à donner ce cours. Donc, pendant que je suis en train de vous parler, je suis Yoel plus Eliaou. D'accord ? Au moment où je terminais de faire ce cours, la Neshama de Eliaou me dit merci et elle remonte. Ou si je fais Chas v'Shalom une faute, toutes les Neshamot me quittent, à l'instant même. C'est pour ça que quelqu'un qui faute est appelé mort, alors qu'il a l'impression qu'il est vivant. Tiens. Non, ce n'est pas une âme goy qui est rentrée. Ceux qui se convertissent ont toujours été juifs, mais à un moment donné, il y a eu une sortie d'autoroute. C'est-à-dire, une âme s'est perdue parce que la maman a eu une fille et que cette fille, un fils qui s'est marié avec une goya. Donc, dès qu'un homme se marie avec une femme goya, la neshama du bébé ne va plus être Israël. Mais en réalité, comme le père était Israël, il y a une Neshama qui s'est perdue. Donc Akadosh Baruch Hu, avec ses comptes, va faire en sorte que cette Neshama revienne dans le monde. Donc ça va être une femme qui va revenir au judaïsme. Et toi, tu as l'impression qu'elle est nouvelle arrivée, mais en réalité, elle était là depuis longtemps, elle est tout simplement partie, perdue, et elle revient. On revient à nos moutons ? Ok. C'est toujours comme ça avec ce genre de sujet. Vous comprenez maintenant quel est le rôle de la Neshama, donc de coller, de faire le lien avec tous les éléments de notre corps. Maintenant, tout ça c'était à cause de ta question. Et je réponds maintenant à ta question. Qui était... Non, ce n'est pas ça ta question. Je vais te la rappeler. Est-ce que quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, voilà, le roi David, et ainsi de suite. Alors, il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup, effectivement. Pourquoi ? Parce que leur âme est active, elle se régénère, de leur vivant. C'est-à-dire même quand elle ne dorment pas, dans le réveil. Non, tout simplement parce qu'ils sont toujours dans un lien, ils sont branchés avec la Torah, avec les mitzvot. Bien fait. Donc, l'étude ne fatigue pas la Neshama, au contraire, elle la régénère. Donc, quand je sors du cours, je suis beaucoup plus fort qu'avant, parce que je suis rempli de Emunah. C'est pour ça que quand vous arrivez au cours, vous êtes crevé. Quand vous sortez d'un cours, vous êtes comme si vous voulez faire de la gymnastique. D'accord. Quand on aime, ça passe vite. Il y a fait. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi plus tu es branché, plus moins tu as besoin de dormir. Alors que moins tu es branché, on va dire avec des mots d'aujourd'hui, plus tu es angoissé, plus tu es déprimé, qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Tu as envie de dormir. Vous comprenez ? Pourquoi maintenant la déprime ? D'accord ? Ça veut dire que tu n'as plus la pression de ta Neshama, donc tu es en dépression. Ta Neshama ne te fait plus vivre. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans ton lit. Et quelle position tu reprends? Du fœtus. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que tu te regourdes tout entière, tu te mets à pleurer, et tu es comme un bébé dans le ventre de maman. C'est-à-dire que tu veux revenir en fait dans le ventre.
Okay.
Ça veut dire que tu as une certaine peur. Tu as des angoisses en toi qui te... Tu as peur, tu as des angoisses en toi qui veulent en fait te ramener chez maman, dans le ventre de maman. D'accord? Moi. D'accord? C'est ça les miens. Et plus tu es quelqu'un d'indépendant et de confiant, tu dors droit. Tu ne bouges même pas. C'est là comme ça.
Oui, là.
Non. Il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts. Ça veut dire que leur nishama est d'un autre degré. Des nishamot, des gens qui dorment avec les yeux fermés. Et il y a tout. Et il faut étudier, c'est une étude.
Les gens qui dorment en parlant.
D'accord.
Les gens qui dorment en dormant.
Voilà, c'est en train de l'être. L'être. Tu n'avais même pas ce genre de questions il y a une heure. Donc, l'être.
Les gens qui parlent en dormant.
Les gens qui parlent en dormant et ainsi de suite.
Mais
tout ça, c'est la Neshama, c'est pas eux. Donc, il y a des phénomènes qui aujourd'hui sont à la pointe de la technologie et de la science. Sachez que c'est une étude énorme aujourd'hui, et même pour guérir les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux te mettre en position, en fait, de rêve alors que tu es éveillé devant moi. Je te force à rêver alors que tu me regardes. Et je peux soigner un malaise que tu as en toi. Avec des éléments. Non, c'est pas de l'hypnose.
Okay?
Ça marche aussi. L'hypnose, c'est tout simplement se connecter avec une des couches de ton âme. Pas la plus profonde. Attention. Alors qu'il y a des mouvements, si je force à tes yeux à bouger très rapidement, ça s'appelle EMDR, c'est une forme de guérison aujourd'hui, c'est le psy, que je force tes yeux à bouger rapidement. Donc tu es obligé de te dire regarde, sans bouger ta tête, juste tes yeux, en fait tu te mets dans une position de rêve, parce que pendant qu'on rêve, les yeux bougent sans arrêt. Ils sont dans un mouvement très 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 rapide. Ok? Donc je simule en fait un rêve et je peux te faire rentrer dans la situation qui t'angoisse, la soigner et te faire revenir.
Ouais.
Et c'est des mouvements que des juifs ont inventés dans le monde.
Comment ça
s'appelle? EMDR, Eye Movement, Rapid Movement Eye.
Okay.
Rapid Eye Movement, exactement. Alors ça c'est encore autre chose, ça s'appelle l'iridologie, c'est autre chose, c'est une médecine de l'œil, c'est-à-dire que dans ton œil, dans ton iris de l'œil, dans ta forme de l'œil, je peux savoir tout ce qui ne va pas dans ton corps, juste en regardant ton œil.
Non.
Et aussi dans l'oreille, l'auricologie, c'est-à-dire, je peux voir en fait, regardez, c'est la forme d'un petit bébé dans son ventre. En fait, ici, je peux appuyer sur plein de points, je t'appuie en fait sur le point de ton corps, juste en touchant l'oreille. Donc les gens mettent des petits points, exactement comme une acupuncture au niveau de l'oreille. Tu ne peux pas, tu peux faire ça au niveau du pied. Le pied raconte toute ta vie aussi, la plante du pied. Donc je peux regarder comment sont formés tes doigts de pied, je peux savoir exactement toute ta vie. Et je peux faire ça aussi avec ta main, et je peux faire ça. C'est une étude, et avec ton front. Il se passe plein de choses, tout change. D'accord? C'est comme une carte. Vous voyez, c'est une carte.
C'est toujours pareil.
Non, ça bouge. Non. Ça bouge. Non. Ça reste pas les mêmes. Toi, tu crois, parce que tu vois grossièrement, mais c'est une carte, comme un GPS. Dans ton front, c'est pareil. C'est l'écran de notre vie. Chacun de nous peut savoir ce que tu as fait hier soir juste en regardant son front. Ok? C'est seulement ceux qui savent ne disent pas pour ne pas mettre mal à l'aise les gens et les laisser en fait choisir leur vie. Bien sûr. Mais il ne faut jamais violer quelqu'un, jamais rentrer de force. Il faut demander une permission même pour guérir, même pour soigner, même pour faire quelque chose. Tu dois demander à celui qui vient te voir, est-ce que tu es venu, ta conscience, que je vais un petit peu te rentrer dedans. Tu me laisses rentrer ou pas? Et s'il me dit non, j'ai pas le droit.
Ces gens-là, ils ont
des dons de naissance. Non, ça se travaille. Il y a un don.
Tout
le monde. Mais vous êtes prophète, je vous l'ai dit déjà. Vous avez tout
cet
potentiel. Mais c'est ça que ça veut dire en potentiel. C'est un cadeau que tu as reçu. Seulement, ouvre-le. Il y a juste un fil et un papier. C'est tout. Ouvre la boîte. C'est à toi de faire ça. Comment je fais ça? Ça étudie. Plus tu étudies, plus tu commences à... D'ailleurs, si ça vous touche tout ça, c'est parce que je vous rappelle inconsciemment ce que vous avez déjà dedans. C'est pour ça que ça vous intéresse. Ça vous interpelle. C'est-à-dire que ça réveille en vous quelque chose que dans le subconscient, vous savez, vous connaissez, ça vous rappelle quelque chose, j'ai déjà goûté. C'est comme si tu te dis, tu veux une glace? Pourquoi tu veux une glace? Parce que tu sais déjà le goût. Quand tu ouvres et que tu as faim, quand tu ouvres le frigo, si je pouvais maintenant regarder ta bouche, tu salives déjà dedans. Quand tu as vraiment faim, vous savez ça ou pas? Il y a des phénomènes. Quand j'approche un bébé de sa maman, le lait monte dans ses seins. C'est bizarre ce truc-là. Donc il y a plein de phénomènes dans la vie. Alors, il faut comprendre que la vie est très complexe, qu'il y a un créateur, que c'est magnifique, que c'est riche. Et que tout ça, c'est dans la Torah. C'est-à-dire que ce que vous recevez ici, c'est des cadeaux pour votre vie entière. C'est pas seulement j'ai étudié un texte qui parle de... Non. On est en train de nous étudier, on est en train de nous faire une propre étude sur nous-mêmes, un doctorat sur ma personne. Alors, jusqu'à maintenant, tu ne te connaissais même pas, tu ne sais même pas ce qui est en toi, tous ces mondes qui sont à l'intérieur de toi. Maintenant, tout doucement, tu commences à les découvrir. Bon. Pour les découvrir, il faut mettre les voiles et les enlever. Donc, vous avez mis les voiles en venant ici, et maintenant, vous enlevez les voiles. Tout doucement, on vous dévoile. D'accord? Ok. Tout ça, c'était Beni Drechou Bechakol Mishpechot Adama. Donc si vous n'avez pas vraiment sommeil et que vous vous sentez en forme, c'est que vous êtes dans une période où il y a beaucoup d'énergie en vous et des nekamot bénéfiques qui vous aident à faire certaines choses. Donc tu as l'impression que tu peux démonter des montagnes, enlever des trucs, des jours tu te lèves, tu te dis mais c'est quoi cette puissance, je peux tout, il n'y a rien qui me fait peur. Et des fois tu te lèves et il y a déjà la l'angoisse, en fait tu respires. Ça dépend comment tu as dormi et quel est ta neshama, qu'est-ce qu'elle a fait. Les petites neshamot, c'est-à-dire les petites gens qui ne laissent pas véritablement la neshama monter, alors la neshama elle restera des paquettes et elle rêve des bêtises. Les neshamot à qui on laisse vraiment monter, elles rêvent quoi? De la Torah, des fiourines de Torah, des messages divins. Ah, il y a fait. Tout ça c'est un apprentissage. On peut écrire un cours. Un cours entier. Là, j'ai signé un livre entier. Un cours, un livre. C'est en train d'écrire. Que par rapport à un rêve. C'est-à-dire, on m'a donné un cours dans un rêve. Entier. Avec des milliards de détails. Comment c'est possible? Parce que le rêve ne prend pas de temps. Combien ça dure tout ça? Rien du tout. Une seconde, deux secondes. Pourquoi? Justement, c'est ça le lien. C'est que quelque chose t'a reçu en une seconde avec tout ce qu'il y a dedans, tu te réveilles, c'est dans le monde du temps, et tu dois maintenant mettre tout ça, ça prend déjà 3 ans. Sur 3 ans déjà du Christ, c'est lui. Alors que j'ai réveillé 3 secondes. Une fois. J'écris tout ce que j'ai reçu dans le rêve, ça me prend 3 ans, j'ai pas encore terminé. D'accord? Parce que dans ce rêve, il y a toute la vie. C'est le rêve de la clé de la vie. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné, je ne sais pas pourquoi, quel mérite j'ai eu, mais bon, parce que j'en remercie jusqu'à aujourd'hui, mais c'est en train d'écrire ce qu'il m'a donné, et c'est vrai, c'est tellement vrai, que je n'ai même pas besoin de demander une confirmation à quelqu'un, à un rabbin. C'est-à-dire, quand je parle à des rabbins de ce rêve, ils tombent par terre. Bien sûr, pourquoi pas quelle différence? Non, c'est sûr, mais parce que la femme, elle a intuitivement les choses. C'est pas qu'elle doit pas étudier. Vous êtes déjà connecté. Vous êtes au ration, moi je dois faire un effort que toi, naturellement, tu peux atteindre facilement. Moi, je dois travailler comme un âne pour étudier.
Oui, c'est
vous, vous êtes branché directement. Oui. Vous êtes beaucoup plus branché que nous.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Donc, ce que je veux dire par là, et là, je n'ai pas touché cette notion, c'est le temps. Vous vous rendez compte de la différence entre 2 secondes, 3 secondes, parce qu'on mesure combien de temps tu es arrivé. Imagine-toi 3 secondes de rêve qui contiennent des années de vie. Des années, puisque tu peux te rappeler des détails, tu peux me raconter un rêve, j'étais là-bas, après je suis monté ici, j'ai vu ma grand-mère et mon... Et tout ça, c'était 3 secondes. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la Neshama, le temps n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la Neshama est divine, et c'est à Kadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas. Qui dit temps dit changement. Ron ? Oui ou non ?
Il n'y a
fait. Non, mais même là-bas, le temps, il n'y a pas de changement. Donc c'est la cohésion et la cohérence totale. Et tu viens dans un monde où tout change sans arrêt. Donc la Neshama, c'est pas qui vit dans ce monde. Mais si tu la branches avec des choses qui sont éternelles, c'est-à-dire l'étude de la Torah, c'est de l'ordre de l'éternité. Qu'est-ce que tu fais à ta Neshama ? Je suis en train de la brancher. C'est comme si maintenant, pendant tous ces jours, je vous ai branché les Neshamot pour sortir après ce jour. Quel kiff ! C'est tout. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir si un cours est bon ou pas. En tout cas pour vous.
Il y a des cours
où ça ne va pas vous faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à ce cours-là, peut-être vous ne correspondez pas à cette manière d'enseigner. Donc il faut toujours choisir d'étudier là où tu ressens ce que je suis en train de vous dire. Et c'est une halakha de la Torah. En Adam Lamed, Ela Bemakom Shelibo Chafet. Tu ne peux pas étudier si ce n'est que dans un endroit où ton cœur te dit. Tu sens que c'est là. Tu sens que c'est ça. C'est avec ça que tu dois développer. C'est comme ça qu'on trouve son rave dans la vie. Moi, j'ai mis 40 ans pour trouver mon rave. 40 ans d'études avec plein de gens avant de trouver mon rave et de dire voilà, c'est lui. Pourquoi ? Parce que pendant que j'étudiais avec les autres, j'étudiais. Il y avait des informations. Mais quand j'étudiais avec ce rave, que je continue aujourd'hui, 10 minutes de parole avec lui, je peux écrire un livre. Un livre, je peux sortir d'un jour avec lui. C'est-à-dire, je peux rentrer chez moi et commencer à écrire un livre. Extraordinaire. Comme s'il me fécondait. Et j'accouche. Incroyable. Et tu corresponds à une certaine personne, exactement. Donc ce qu'on appelle Pérou ou vous. Une fructification. Donc il y a toujours une fécondation, en fait, maître-élève. D'ailleurs, le mot élève veut dire féconder. La lève, c'est la même racine, accoucher. Donc l'élève, c'est accoucher le rave. Si tu es un bon élève, tu fais accoucher le rave. Donc t'as le dit qui a l'aide, mais il y a l'aide. D'accord ? C'est la même racine. Et c'est de là où on peut savoir quel est le bon élève. Donc, dans une Torah du premier degré, l'élève cherche son maître. Mais dans la Torah du profond degré, c'est le maître qui trouve son élève. Il sait quel est son élève. C'est pas parce que l'élève lui dit je veux que tu sois mon rave. C'est le rave qui dit à l'élève je veux que tu sois mon élève. Parce que je vois qu'en toi, c'est fécondé. Ça passe et tu peux faire passer à ton tour. Ok ? Klomar, c'est à Goya Miyuchadaze, c'est Abraham Omed Beyestodo. Donc toute cette nation d'Israël que Abraham contient en lui, où j'ai, c'est Beyom Minayami, c'est le même qui un jour, et c'est celui qui va pouvoir un jour ramener à quoi ? À l'humanité. Matsavo Abari, son état sain de guérison. Qu'est-ce que c'est à Yabezman, Chalukat Anushot, comme c'était au départ. Kikunze, il s'affaire cette réparation. Pas possible, Bigla, la Ouvda, Pim, Grasobit, Beoter, parce qu'il y a une vérité absolue, profonde, okay, une réalité, une Ouvda, une preuve, pas le travail, Ouvda, pas Avoda, Hakovat qui dit, c'est Am Israël ou Agorem Ayachid, que le peuple d'Israël est le seul élément, le seul, Betoldot Aenosu, dans toute l'humanité, c'est Sgulato, qui a en lui, qui porte en lui la capacité à mouler d'une manière innée, naturelle, les Ached Ben Kolami, de rassembler toutes les nations comme tous les membres du corps pour la Neshama. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Ok. Yahoud, qu'est-ce que c'est Yahoud en hébreu? En hébreu, Yahoud, c'est un but. Donc Yahoud, un but. Yahoud, ce but, est un okofé, et à ce moment-là, ou moi. Ce n'est pas un but qui vient forcer les nations à faire ça. C'est même si c'est qui humana asmi albamata historia. C'est pas qu'on leur rentre dedans de force. Yachad im zot, mais malgré cela, Am Israël amour la force le moré aderech avouran. Le peuple d'Israël a un rôle, c'est d'être le moré aderech. Qu'est-ce que c'est moré aderech? Comment on appelle ça? Un guide. D'accord? Nous sommes le guide des nations, le guide du chemin. Le guide du chemin, c'est Am Israël. Et qui doit enseigner aux nations qu'elles s'adressent à Olam Hazé, comment elles doivent vivre dans ce monde, alpia criterium in selanetar, selon les critères de l'infini. Ça veut dire que puisque nous sommes porteurs de l'infini, vous l'avez compris, puisque nous sommes Neshama, et la Neshama est infinie, vous avez déjà vu une Neshama qui meurt, ça n'existe pas. C'est le corps qui arrête de fonctionner, mais la Neshama elle passe à autre chose. Donc personne ne meurt réellement. Il passe à un autre travail. D'ailleurs, comment on dit mourir en hébreu? Démissionner. Niftarit pater. Donc tu as démissionné de ce corps, mais on te donne autre chose. Donc en fait, les Neshamot, quand tu ne les vois plus ici, tu es parti à Givat Shaul, on les a enterrés, tout le monde pleure. Mais la Neshama elle-même, elle ne sent pas du tout ça. Elle sent qu'elle a fini cette enveloppe et elle va maintenant dans une autre enveloppe. Comme j'ai arrêté avec cette voiture, je m'en ai acheté une autre. C'est tout. Tout simplement, tu changes de véhicule. Donc les vêtements, ça sert d'auto. C'est un jeu de mots. Il se peut qu'elle monte un petit moment et si un bébé vient de naître, au moment où on enterre cette personne, cette Neshama, au lieu de monter, elle rentre dans le bébé. Il vient d'être. Justement, elle revient dans ce bébé pour continuer et recommence tout à zéro. Si t'as Alex, si t'as Beth, Yann Chova. Non, parce qu'on doit ressentir humainement parlant la peine de celui qui n'a plus cette enveloppe-là. Mais ça a aussi une limite. Il faut savoir qu'il faut savoir s'arrêter. Et ce qui est interdit, c'est de continuer. Parce que ça tend vers la mort. Ça veut dire qu'en réalité, tu as perdu le sens même de la vie, tu tends vers la mort, donc tu n'as pas compris qu'en réalité, il s'agit d'un grand jeu et qu'il y a quelqu'un qui est à la source de ce jeu et qui maintient toutes les systèmes. Donc il faut avoir à un moment donné la Emouna qui revient. Que tout est vrai. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis tout jusqu'au moment où ça se diminue tout doucement. D'accord? Les trois premiers jours, c'est une étape. La semaine, c'est une autre étape. 30 jours, c'est une autre étape. 11 mois, c'est une autre étape. Et 12 mois, c'est la dernière étape. Et après, ça s'annule juste le jour.
De l'enterrement,
pas de la mort. C'est-à-dire, c'est l'enterrement qui compte. Généralement, en Eretz Israël, c'est toujours le même jour.
C'est la mort,
c'est... Non, l'enterrement. Parce que tant que la Neshama, elle ne peut pas monter tant que le corps n'est pas enterré.
Oh,
d'accord. Donc, en Koutzlaret, on garde le corps des fois une semaine parce que c'est le week-end de l'Ascension, de la Pentecôte ou de le Sefer Shabbat. Les pauvres salles de salut. C'est un sourd, c'est un sourd de la Torah. La Neshama n'a pas le droit... le corps n'a pas le droit de rester la nuit seul. Parce que d'autres Neshamot peuvent l'utiliser comme un squat.
D'accord.
Pour ça qu'il faut veiller. Parce qu'il y a une protection. L'étude que tu dis pendant la veille, ça donne comme une forme de lumière que toi tu ne vois pas. Et qui empêche une autre Neshama étrangère à rentrer dans ce squat. Parce que c'est un corps, ça leur repose. Il y a des Neshamot qui n'ont pas trouvé leur repos et elles servent de corps. Il y a des gens même vivants, ils n'ont pas besoin de mourir. Il y a une vingtaine d'années, en Israël, il y a eu une histoire de cette femme dont le mari est revenu dans son corps. Il était mort, il est revenu. Le mari s'appelle Pinchas, et tu vois la femme, et les rabbinim autour sont en train de dire « Qui es-tu ?» La femme en train de bouger comme ça, elle dit « Ça, c'est une voix d'homme. » Filmé et tout, hein. Il est sorti par son orteil après 2 heures ou 3 heures de pour parler avec le rave. Ben, il disait qu'il vient l'apprendre. Il le cœur, il disait comme ça, je viens te prendre. Enregistré, hein. Le rave lui dit, mais pourquoi tu veux l'apprendre? Il dit, parce que j'ai pas de repos. Il dit, mais pourquoi t'as pas de repos? Parce que je faisais pas Shabbat quand j'étais vivant. Donc on ne me laisse pas rentrer dans le Olam Abba. Donc je n'ai pas de... Parce que en fait, il a besoin de rentrer dans un endroit. Donc le rave lui dit, je te promets que je prie pour toi maintenant, pour te libérer, tu vas pouvoir rentrer, mais quitte cette femme, c'est pas ton corps. Il lui dit, alors, pas lui, je m'en fiche. Il te parle carrément. Ouais. En utilisant la femme, et tu vois, comme dans les films, tu vois un truc comme ça. Non, mais elle est par terre, mais quand elle rentre, elle pousse le corps. Tu le vois, maman, tu vois la femme qui est en train de bouger. Parce qu'il y a une puissance qui pousse de l'intérieur. Donc, comme vous voyez, Chag de Salom, si vous avez déjà vu des films d'horreur, machin, des trucs, sixième sens, bon, peu importe. On arrête les cours aujourd'hui, mais ça fait que ces choses existent, mais Baruch HaShem, en étudiant la Torah, vous vous créez des protections. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on étudie, en fait, vous ne pouvez pas le voir, mais en réalité, on crée autour de nous une boule de cristal très puissante de lumière divine qui ne laisse aucune force étrangère nous pénétrer. Ni de mauvaises idées, ni de mauvaises influences. Exactement. La faute enlève en fait une certaine protection et la mitzvah et l'étude reforment cette protection. Alors, de toute façon, je vous souhaite une bonne enveloppe lumineuse qui vous protège et qui vous reste, qui vous laisse dans la simcha. Amen. Ah bon?
Là, c'est bien, c'est bon.